La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Hélène Richard est journaliste au Monde diplomatique, spécialiste de la Russie. Les articles qu'elle publie parlent essentiellement de ce pays et de fait de la guerre en Ukraine. Elle a été accueillie au lycée Marcel Gimond en même temps que la classe média du collège La Ségalière à l'Argentière. Collégiens et lycéens se sont associés à cette occasion pour l'interviewer.
La grande interview.
Une émission de grande classe.
Bonjour et bienvenue dans la grande interview, une émission réalisée par la classe 4e média du collège La Ségalière à l'Argentière et les élèves de première du lycée Marcel Gimond à Aubenas. Nous sommes avec Sarah, Lila, Laura, Margot, Sam, Oscar et nous interviewons Hélène Richard, journaliste au Monde diplomatique. Nous allons aborder plusieurs thèmes avec vous. Alors ouvrez grand vos oreilles et pour notre premier thème, nous allons parler de votre parcours. Je passe dès à présent la parole à Laura.
Bonjour, quel a été votre parcours pour devenir journaliste ?
Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre lycée. En ce qui me concerne, je n'étais pas vraiment programmée pour être journaliste. J'ai commencé, avant de faire du journalisme, j'ai fait de la recherche, j'ai fait une thèse en sciences politiques et mon thème de recherche ça concernait la Russie et notamment la question de la propriété privée après le communisme en Russie. Donc voilà, alors au Monde diplomatique on est un journal un peu particulier, on va rentrer assez profondément dans l'analyse, donc les journalistes qui y travaillent, ils ont des parcours un peu différents, il y en a une partie qui viennent assez classiquement des écoles de journalisme, qui ont fait des études spécialisées dans le journalisme. Et puis, il y a d'autres collègues qui ont plutôt des parcours de recherche et qui sont spécialisés sur des régions ou des pays. Et voilà, c'était mon cas. Et donc, on m'a fait cette proposition et j'ai accepté. Mais disons que je n'ai pas eu un parcours spécialisé dans le journalisme avant d'accéder à ce métier.
Mais est-ce qu'il faut faire une école de journaliste pour devenir journaliste ?
En règle générale, quand même, dans la grande majorité des journalistes, quand même, passent par la voie des écoles de journalisme. Je dirais que là, c'est plutôt une spécificité du monde diplomatique qui requiert une certaine diversité de recrutement. Mais dans la profession, quand même, la plupart des journalistes sont passés par des écoles, soit des écoles spécialisées, soit il y a certaines universités qui font des formations spécialisées, soit dans ce qu'on appelle les IEP, les Instituts d'études politiques, où il y a des parcours journalistes. Et parfois, passer par la recherche, ça existe. Il y a par exemple dans le journalisme scientifique, spécialisé dans les questions scientifiques. Il y a aussi pas mal d'anciens chercheurs qui se reconvertissent dans le journalisme, par exemple.
Avez-vous trouvé un emploi facilement ?
Bah oui, parce qu'on m'a fait cette proposition, donc j'ai même pas eu à déposer de CV. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et quand j'ai fini ma thèse, le monde diplomatique qui cherchait quelqu'un de spécialisé sur la Russie, les pays de l'Est, c'était un peu mon cas. Ils m'ont fait la proposition parce qu'ils avaient vraiment besoin de quelqu'un sur ce sujet-là. Et connaissance, ils avaient repéré mon travail et puis ils m'ont proposé de travailler. Donc j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance, oui.
Merci. Nous allons passer à notre deuxième thème qui s'intéresse au métier de journaliste. Je passe dès à présent la parole à Sam.
Est-ce qu'un journaliste travaille beaucoup d'heures ?
En général, oui, beaucoup. Mais il y a des métiers très différents dans le journalisme. Il peut y avoir, par exemple, des gens qui couvrent l'actualité en continu et donc qui peuvent avoir des horaires décalés, qui peuvent devoir alimenter un fil d'actualité toute la nuit, être au courant des dépêches qui arrivent de partout dans le monde avec un décalage horaire, etc. Donc il y a des métiers, il y a des journalistes qui sont comme des gardes, un peu comme à l'hôpital, on va dire. Et puis moi, dans mon cas, comme on est un journal déjà, on est un journal mensuel. On a le temps pendant toute la durée d'un mois de produire. On a 28 pages, donc on a un rythme de travail plutôt classique, avec des horaires de bureau, 9h, 18h, une pause à midi. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai des très bonnes conditions de travail, assez atypiques dans le journalisme, parce que j'ai déjà un poste fixe, c'est-à-dire je suis en contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes. Il y a pas mal de journalistes aujourd'hui qui travaillent sous la forme de ce qu'on appelle des piges, c'est-à-dire ce sont des journalistes indépendants qui proposent leur travail à différents journaux et ils sont payés à l'article. Et donc du coup, leur rémunération, elle dépend de la quantité de travail qu'ils produisent, du nombre d'articles qu'ils peuvent placer dans différents journaux. Et je sais que ce statut-là, un peu plus précaire, fait qu'ils sont obligés de beaucoup travailler, y compris le week-end, des fois, pour multiplier les occasions de travailler. Donc ça, c'est sûr que c'est... Il y a des statuts différents, des types de médias différents qui créent des conditions de travail et des contraintes un peu différentes d'un journal à l'autre, d'un statut à l'autre. Moi, je ne me plains pas de mes conditions de travail qui sont très bonnes.
Est-ce que c'est un métier dangereux ou difficile ?
En ce qui me concerne, je ne suis pas une journaliste de reportage de guerre, par exemple. Je ne vais pas aller chercher l'information au plus près de l'événement et donc trop exposer ma vie à des situations à risque. La chose la plus... qui a demandé un certain nombre de mesures de sécurité quand même, c'est que j'ai fait, par exemple, cet été un reportage en Ukraine, où il y a la guerre, mais je suis allée dans des zones pas directement sur le front. Il y a quand même des mesures de sécurité. J'ai dû trimballer un gilet pare-balles, un casque, mais c'était plus pour des questions juridiques que des questions vraiment de mise en danger direct, parce que j'ai... Bon, il y avait quelques bombardements dans les villes où j'ai été, mais... assez ponctuel, et j'ai pas été exposée vraiment à une situation d'être sur un front avec des tirs d'artillerie ou des... La plupart du temps, moi, je travaille quand même sur de l'analyse à mon bureau. Je commande beaucoup d'articles à d'autres journalistes avec qui je collabore. Des fois, je fais quelques reportages, mais c'est vraiment très rare que je sois comme ça très très proche de l'événement, à chercher une actualité très chaude. La périodicité de notre journal, tous les mois, fait que nos lecteurs, ils n'attendent pas la dernière info dans notre journal. Ils vont plutôt chercher de l'analyse, du recul.
D'après vous, quelles qualités et compétences faut-il avoir pour être journaliste ?
Des qualités, c'est-à-dire les qualités qu'on doit avoir, évidemment, ça serait de la curiosité, de l'envie de décrypter le monde qui nous entoure... vouloir transmettre de l'information, etc. Et puis pour les compétences, on les acquiert. C'est comme n'importe quel travail. C'est pas du tout inné. C'est assez standardisé, finalement, hein, l'écriture d'un article, la hiérarchisation de l'information, le style. À force de répétition, on acquiert ces automatismes de savoir construire un article, de savoir placer l'information dans un sens de lecture qui permette au lecteur d'avoir tous les éléments et dans un bon ordre. C'est accessible à toute personne qui a un petit peu de persévérance. Voilà, il faut beaucoup écrire et puis à un moment, le métier rentre, comme on dit.
Est-ce que le métier de journaliste est un métier bien rémunéré ?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans... La profession, elle est très éclatée en raison de statuts très différents. Et donc il y a un problème de précarité du métier de plus en plus. Donc avec une difficulté je pense surtout aux journalistes pigistes de dégager un salaire correct de leur travail, ceux qui sont payés à l'article produit. C'est une vraie problématique. Moi, par exemple, Je suis journaliste au monde diplomatique et je suis aussi déléguée syndicale. Donc je suis membre d'un syndicat de journalistes qui s'appelle le SNJ, le Syndicat National des Journalistes CGT. Et donc, du coup, je connais bien ces questions aussi de précarité. J'essaye aussi de travailler à l'amélioration des conditions de travail des autres journalistes, quoi. Donc, je vous cache pas qu'il y a... Il y a une précarisation quand même du métier de journaliste et les postes en CDI sont difficiles à obtenir. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons structurelles en ce moment. C'est que le problème des... Donc les journaux sont souvent possédés par des actionnaires privés et la plupart des modèles économiques des journaux, c'est beaucoup basé sur la publicité, qui sont une grande source de financement des journaux encore aujourd'hui. Ce n'est pas le cas du monde diplomatique, mais en général, c'est le cas. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la presse papier, elle est un peu en déclin. Ça passe beaucoup par Internet, les réseaux sociaux. Et le prix de la publicité dans ces espaces, dans l'espace numérique, il est beaucoup plus bas. Et donc, y a une pression économique et qui se répercute ensuite un peu sur... à la fois sur les statuts, sur les rémunérations, etc. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur le financement des journaux, etc., et leur modèle économique, ainsi que l'amélioration des conditions des journalistes. Mais il existe encore des rédactions avec des postes pérennes, et c'est ça qui permet de produire une information de qualité. Forcément, c'est lié.
Sarah, une autre question pour vous.
Quelles sont les règles et les devoirs qui encadrent cette profession ?
On va dire qu'il y a des droits et des devoirs. Les droits, ça concerne la liberté de travailler, la liberté d'expression. Il y a pas mal... Ça serait long de rentrer dans tout le cadre juridique, mais la Charte des journalistes autorise, en quelque sorte protège en partie les journalistes d'un certain nombre de pressions politiques ou économiques dans le cadre de leur travail. Et sur les devoirs, il y a tout un tas de règles déontologiques, notamment le fait d'avoir une information qui est vérifiée, qui est juste, qui ne doit pas être diffamante. Et si jamais un journaliste déroge à ces règles, il y a toujours la possibilité pour le public d'attaquer un journal en diffamation. Alors c'est pas le journaliste qui est attaqué à titre personnel, c'est son employeur, c'est le directeur de la publication qui a à répondre, qui est responsable juridiquement de ce qui est publié dans ses colonnes. Donc d'une certaine manière, le journaliste est un peu protégé aussi, c'est-à-dire qu'il n'assume pas tout seul la responsabilité des contenus qui sont publiés. Et ça se règle au tribunal, donc voilà.
Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième partie de notre interview, profitons d'une pause musicale. À tout à l'heure.
Navigating through the lows and
Retour avec notre invitée, la journaliste Hélène Richard. Parlons à présent du média dans lequel vous travaillez. Je passe la parole à Oscar.
Pourquoi le monde diplomatique porte-t-il ce nom ?
C'est à cause de son histoire, parce que initialement, le monde diplomatique était le service international d'un journal que vous connaissez peut-être sans doute, qui est un des journaux les plus connus en France, qui est Le Monde. Et au début, on était le service diplomatique et international de ce journal-là. Et puis, progressivement, on a pris notre autonomie. Et finalement, on est devenu un journal à part entière. Et donc, c'est lié un peu à cette histoire.
Quelle est sa place dans l'univers des médias ?
Déjà, alors, c'est essentiellement, même si on a un contenu internet, c'est un journal de presse écrite. Donc, c'est pas, on ne fait pas d'audiovisuel, on ne fait pas d'émissions de télé. On est très centré sur l'écrit, nous. Donc, même si on a une version numérique internet, on est quand même centré sur la production écrite. Après, notre spécificité, un peu comme notre nom l'indique, c'est qu'on est très centré sur les questions internationales. On parle aussi un peu de la politique française, des mouvements sociaux en France, etc. Mais on va surtout traiter des questions internationales. Donc on est connu pour être un peu spécialiste de ces questions. Voilà. Et puis... on a accompagné une certaine critique de la mondialisation telle qu'elle se faisait, tout en traitant des questions internationales. On a une vision un peu critique de l'évolution du monde. Et donc, on a été à un moment quand même assez lié au mouvement, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le mouvement altermondialiste. Non, ça ne vous dit rien. C'est plutôt un mouvement, dans les années 90, qui... avec le développement de tous les accords internationaux de libre-échange, de circulation des marchandises, de délocalisation, qui ont eu des conséquences assez importantes sur l'économie mondiale, sur les rapports entre les pays, etc. Donc on a accompagné quand même un traitement critique de ces évolutions. Et même, il faudrait remonter même encore dans le temps, dans les années 50, 60. C'est bien... aussi d'une histoire de ce journal qui était liée à ce qu'on a appelé le tiers-mondisme. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose. Le tiers-mondisme, c'était... Alors bon, là, historiquement, c'est un journal qui a accompagné le mouvement des pays pauvres du Sud, du tiers-monde, ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, qui souhaitait... s'émanciper des anciennes tutelles coloniales. La France a été un empire colonial. Le cas aussi du Royaume-Uni, etc. Donc ce sont un mouvement après la Seconde Guerre mondiale où tous ces peuples ont cherché à s'émanciper, à acquérir leur indépendance. Et notre journal était plutôt du côté de ce mouvement-là, de pays qui souhaitaient ni être attachés à leurs anciennes colonies, s'émanciper d'elles, ni... forcément être soumise ou être reliée à la tutelle soviétique. À l'époque, c'était l'Union soviétique, le pays qui était avant la Russie, voilà. Et du coup, voilà, on appelait ça aussi le mouvement des non-alignés, ni d'un côté ni de l'autre, pour leur développement, etc. Donc on était positionnés comme ça. Et ça a continué. Et aujourd'hui, on est encore un peu héritier de cette histoire. On essaie d'avoir un regard critique sur les questions internationales.
Parlons à présent du rôle des journalistes dans la société. Je passe la parole à Lila.
Comment pouvez-vous définir votre rôle dans la société ?
Vos questions sont difficiles, hein. Alors là, notre rôle dans la société en tant que journaliste, c'est vaste. Évidemment, les journalistes, leur travail, ce pourquoi ils sont payés, c'est de produire de l'information. Donc de produire de l'information... pour contribuer au débat public, pour que les citoyens puissent, à la toute fin, déterminer, forger des opinions, déterminer des choix, éventuellement des choix politiques, au moment de voter, au moment de se mobiliser pour telle ou telle cause. Typiquement, c'est le rôle des journalistes. Après, au monde diplomatique aussi, on essaye de développer, ça c'est une autre partie de notre travail qui est un peu aussi une spécificité, on essaye de développer une analyse critique des médias, une analyse critique du journalisme tel qu'il se fait aussi. On s'autorise à produire aussi une réflexion critique sur le journalisme, pas considérer qu'on est juste les représentants d'une caste de gens qui sont plus essentiels pour la démocratie, etc., et puis qu'on se contente de ça. Et donc, du coup, donc les journalistes, ils sont à la fois essentiels à la démocratie et en même temps, donc on peut dire d'une certaine manière que c'est un contre-pouvoir, puisqu'ils vont faire des enquêtes sur des sujets qui peuvent déplaire aux politiques, qui permettent de dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements dans la société, etc. Mais c'est aussi un pouvoir tout court. Il y a journalistes et journalistes. Il y a des journalistes qui ont, par exemple, des pigistes qui sont dans des conditions de travail difficiles, etc. C'était pas la même chose que, par exemple, un journaliste qui tient un journal télévisé ou qui a une influence importante et qui, lui, a aussi... ou les chefs de rédaction qui ont un pouvoir d'influence de l'opinion, dans certains sens aussi. Comme dans n'importe quel métier, il y a des gens qui exécutent, des gens qui décident. Le terme de journaliste, en fait, réunit des gens très, très différents, en réalité.
Les journalistes ont-ils le droit de tout dire ?
Comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas le droit de tout dire, dans le sens où la loi encadre des certaines limites. Donc, ils doivent produire une critique sur la base d'informations justes et vérifiées. Sinon, on bascule dans ce qu'on... Soit l'information mensongère, soit la diffamation. Donc on ne peut pas tout dire, tout ce qui nous passe par la tête, on est tenu par un certain nombre de règles. Après, c'est la question de l'indépendance des journalistes, et notamment l'indépendance des journalistes par rapport, dans nos démocraties, par exemple en France, ce qui va plutôt contraindre les journalistes, c'est plutôt le pouvoir économique. Celui qui possède le journal... Et comment il va chercher à orienter ou non la ligne éditoriale du média, c'est-à-dire les choix de sujets qu'on va traiter, la manière dont on va les traiter, etc. Donc il y a certains journaux, par exemple je prends le cas du Monde Diplomatique, ou même dans une autre mesure le cas du journal Le Monde, où... Les journalistes, ils ont un droit de veto sur la nomination du directeur de l'entreprise. C'est-à-dire l'actionnaire, celui qui possède le journal, n'a pas le droit d'imposer le chef qu'il veut. Donc déjà, c'est un peu prévu que les journalistes ont une capacité à protéger leur indépendance. Ce n'est pas le cas de tous les médias. Et nous, par exemple, une manière au Monde Diplomatique de protéger notre indépendance, c'est qu'on a, ce sont l'ensemble du personnel, journalistes, salariés, mais aussi les gens de l'administration, etc., qui votent pour élire le directeur du journal. Donc, on est un peu protégé par ces statuts, en fait. Mais ça varie d'un média à l'autre, d'un journal à l'autre. La manière dont un journaliste est indépendant, ça ne dépend pas que de ses capacités personnelles, de son courage individuel, etc. Ça dépend d'un certain nombre de règles, de statuts qui sont organisés pour rendre possible cette liberté d'expression. Et ça, c'est des combats, c'est des luttes. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, tout cru. Donc c'est toujours un peu une bataille. En France, bien sûr, la situation, elle est plus favorable que dans d'autres pays, qu'en Russie, où là, carrément, des journalistes peuvent être inquiétés, mis en prison. Mais c'est toujours une bataille.
Nous allons passer à un autre thème, les femmes dans le journalisme. Je passe la parole à Éloin.
Est-ce qu'au sein du Monde Diplomatique, la rédaction, est-ce qu'elle a un fonctionnement paritaire ?
Dans la rédaction, c'est assez paritaire le nombre d'hommes et de femmes. Après, sur les postes de responsabilité, le rédacteur en chef est un homme. Il y a une transformation un peu de une période de transition donc pour l'instant, mais dans le passé les rédacteurs en chef adjoints aussi étaient des hommes. Pour l'instant, on n'a jamais eu de femme à la direction du journal, si je ne m'abuse pas. En tout cas, depuis que je suis arrivée, il n'y a eu que des hommes. Donc, on ne peut pas dire que le monde diplomatique est un exemple de, comment dire, de parité sur le plan de la... voilà, on est confronté au, voilà, aux mêmes difficultés, questions que dans le reste de la société. Sur le plan de l'égalité des salaires, par contre... Il y a quand même en moyenne une relative égalité. Et voilà. Ici, il y a une rédactrice en chef, mais c'était donc il y a plus de 10 ans. Donc voilà. Et puis, on a un directoire, donc qui sont le directeur et son équipe de direction, où là, on a 3 hommes et 2 femmes.
Est-ce que les femmes voyagent-elles moins que les hommes ?
Au monde diplomatique, les pratiques sont assez comparables d'un journaliste à l'autre, qu'elle soit femme ou homme. On fait un peu de reportage et beaucoup de travail en desk, qu'on appelle, donc au bureau. C'est notre jargon local. Après, bah, par exemple, moi, j'ai eu 2 enfants. Enfin, je suis arrivée au journal en 2014. J'ai eu une petite fille en 2015. Après, j'ai eu une petite fille en 2017. Donc, bah, forcément... Ça fait des congés maternité, des contraintes familiales. Donc ça dépend aussi beaucoup du contexte familial. J'ai certaines collègues qui ont soit des grands-enfants, soit pas d'enfants. Donc aussi, ça joue sur la capacité de se déplacer. Voilà. Mais comme j'ai quand même bonnes conditions de travail... J'ai la possibilité quand même de m'organiser. J'ai un encadrement quand même assez favorable à ce que je sois sur le terrain. Donc voilà, on s'organise, quoi.
Cette émission est terminée. Merci à Hélène Richard d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir écoutés. À bientôt.
Merci à vous.
Merci.
C'était
La Voix des Jeunes,
un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires Taubenas et de sa région.